Paris veut être libre.
Dans la vieille cité française,
un mouvement insurrectionnel éclate.
La commune est réclamée.
Vive la commune!
Et des millions de bonnes fois qu'est laissé l'état social. L'inégalité le ronge. L'insolidarité le tue. Des préjugés antisociaux l'étreignent dans leurs mains de fer. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuise dans ce qu'elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et l'ignorance. Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire.
À qui la responsabilité? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Conduit jusqu'au bord de l'abîme.
En avant pour la République, pour la commune et pour la liberté.
Place au peuple, place à la commune.
Aux armes.
Bonjour Marc César.
Bonjour.
Vous enseignez à l'université de Paris 13. Vous avez travaillé sur les communes de province et en particulier sur le cas de la commune de Narbonne. Et vous êtes auteur du livre Mars 1871, La commune révolutionnaire de Narbonne, paru en 2008 aux éditions Singulières.
Oui.
Donc on va parler ensemble d'abord du mouvement communaliste en France à cette époque et peut-être qu'on reviendra un peu plus précisément sur le cas de la commune révolutionnaire de Narbonne un peu plus tard.
Très bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Paris n'a pas été la première ville de France à proclamer la commune. On a des communes qui ont surgi en fait beaucoup plus tôt, hein, puisque c'est dès le mois d'août 70, avant la chute de l'Empire, durant la guerre en fait, que des communes ont été proclamées, alors éphémères certes, mais des tentatives de proclamation communaliste ont eu lieu à Marseille et à Lyon. Ces deux villes proclameront la République le 4 septembre 1870, avant même que Paris ne fasse de même. Alors c'est une question d'heure, hein. Ce qui montre que ces villes n'attendent pas le signal parisien, ne dépendent pas de Paris. Au lendemain du 4 septembre, la ville de Lyon va se doter de pouvoirs locaux qui vont bien au-delà, hein, de ce que pourraient être les attributions normales d'une ville de province. On remarque que la ville de Lyon avait arboré le drapeau rouge. Dans le contexte de la guerre de 70, va naître une expérience intéressante autour de ces deux villes que sont Lyon et Marseille, qui est l'expérience de la Ligue, Ligue dite du Midi. C'est une forme d'organisation du pouvoir qu'on pourrait qualifier de fédéraliste. Dans le sud-est, elle se proposait de mobiliser des hommes pour venir en aide au nord de la France face aux Prussiens. Les républicains du sud-est de la France souhaitent s'organiser pour venir en aide au nord. C'est une initiative qui part de Marseille et de Lyon, qui va progressivement rassembler plusieurs départements. Ça va rassembler jusqu'à 13 départements qui sont représentés par des délégués et qui montent une sorte d'organisation qui va s'attribuer le droit de lever l'impôt, qui prévoit la séparation de l'Église et de l'État, qui prévoit la liberté de la presse ou même, bon, contexte de guerre et contexte tendu, la confiscation des biens des traîtres. Cette initiative est distincte du gouvernement de la Défense nationale, présidé par Trochu, distincte de l'initiative de Gambetta à la tête de la délégation de Tours. Gambetta aura l'habileté d'éviter que cela ne tourne au séparatisme en ramenant le chef de la Ligue du Midi auprès de lui. On peut aussi la lire tout simplement comme une réaction au centralisme de l'Empire, qui était vu comme l'instrument de l'autoritarisme. L'idée, c'est que la proximité permet le contrôle des représentants élus, permet une citoyenneté active, et en cela, la Ligue se propose comme d'être une alternative, en fait, à l'héritage de l'Empire, un mode d'organisation qui est peut-être provisoire, on ne sait pas, mais qui permettrait de construire quelque chose de nouveau. Alors, il y a aussi des communes qui ont existé, donc avant même la proclamation de la Troisième République, le 4 septembre. On a, à Lyon et à Marseille, d'autres tentatives durant l'automne 70, de proclamation de commune. Donc à Lyon, la commune est proclamée le 28 septembre 1870 lors d'un coup de force contre le pouvoir municipal en place. Pourtant, très avancé déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce mouvement échoue, il est chassé par la garde nationale, les révolutionnaires qui étaient autour de Bakounine, qui étaient arrivés en septembre à Lyon, ont échoué en fait à entraîner le peuple dans une révolution sociale. Les républicains majoritairement approuvent le pouvoir en place. On aura à Lyon d'autres troubles qui vont suivre durant l'automne 70 et l'hiver 71. Mais l'épisode du 28 septembre est très important à Lyon parce qu'il va creuser un fossé entre d'une part les républicains et d'autre part peut-être ce qu'on pourrait appeler à la fois les socialistes et les anarchistes. Alors donc on a ceci à Lyon. On a aussi à Marseille une proclamation d'une commune à l'automne, puisque Marseille proclame la commune révolutionnaire le 1er novembre 1870. Mais là aussi, celle-ci va se dissoudre progressivement dans des jeux de pouvoir locaux. On remarque tout de même que à Marseille, on a une situation de fait insurrectionnelle, sans discontinuité, on va dire, de novembre 70 à avril 1871. On a même une certaine fluidité dans les équipes révolutionnaires des deux villes. On pense à Cluseret, à Bastelica, à Richard, à Bakounine. Gambetta, en tant que ministre de l'Intérieur, que Gambetta a beaucoup de mal à imposer à ces villes des préfets. Et on a tout un cycle d'imposition de nouveaux préfets et puis de révocation de ces préfets. À Marseille, systématiquement, on a un nouveau préfet. Puis hop, il prend pas le bon chemin, donc il est révoqué, on en trouve un autre. Voilà. Alors, ce qui est vrai pour Paris, une signature de préliminaire de paix fin février et avant ça d'un armistice qui va être difficile à avaler pour les républicains. Tout ceci joue à Paris, bien sûr, parce que Paris a subi directement le siège, etc. Mais tout ceci joue aussi dans la France non occupée. Il faut mettre à part toute la partie de la France qui est occupée par les Prussiens, puisque dans celle-ci, bien évidemment, les velléités révolutionnaires vont être fortement étouffées. Alors, c'est après donc ces expériences de proclamation communaliste bien avant Paris, hein, à Marseille, à Lyon, que vont avoir lieu en mars 1871, suite à la nouvelle de l'insurrection parisienne, une nouvelle vague, ou que va avoir lieu, pardon, une nouvelle vague d'insurrection communaliste. On va avoir des tentatives d'insurrection dans de nombreuses villes, à Marseille, de nouveau, à Narbonne, à Toulouse, au Creusot, à Saint-Étienne ou à Limoges, toutes ces villes vont proclamer des communes, alors plus ou moins longues, parfois éphémères. Hein, au Creusot, c'est deux jours, Saint-Étienne, trois jours. Limoges, je crois que c'est qu'une journée. Mais à Marseille, on aura quand même une commune qui va tenir du 23 mars au 4 avril et à Narbonne, du 24 au 31 mars. Lyon connaît, quant à elle, une insurrection en deux vagues. D'abord, pour reprendre le mot de l'historien Maurice Moissonnier, qui avait travaillé beaucoup sur Lyon, une commune théorique et éphémère, puis une révolte contre le résultat des élections municipales du 30 avril, qui est plus connue, que l'on dit insurrection de la Guillotière, puisque insurrection qui a éclaté dans le quartier de la Guillotière, qui a été meurtrière. Ce qu'on remarque quant à Lyon et Marseille, c'est que les échecs précédents handicapent un petit peu ces villes pour appuyer Paris en mars 71. Pourquoi ? Parce que finalement, on a une certaine usure des équipes révolutionnaires. Et ça explique peut-être, enfin c'est un des éléments qui peuvent expliquer pourquoi aucun de ces mouvements à Lyon et à Marseille ne vont parvenir à s'imposer dans la durée. À Marseille, la répression va être sanglante hein, aussi, donc évidemment il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur évident à Marseille aussi, c'est le fait que Marseille n'a pas imposé cette révolution à son environnement, c'est-à-dire aux environs ruraux et aux villes qui environnaient Marseille, qui n'ont pas suivi le mouvement. À Narbonne, les insurgés avaient pris des otages, avaient fait basculer une partie de la garnison, donc les choses étaient allées assez loin, et l'armée avait encerclé la ville, je reviendrai certainement après, et le massacre général a été évité par la clairvoyance des autorités civiles, qui ont réussi à contenir les militaires envoyés sur place par le gouvernement de Versailles. Donc on a eu des situations révolutionnaires assez avancées. Voilà. On observe aussi quelque chose dont on parle peu, c'est indépendamment de ces communes, peut-être surtout au sud de la Loire, dans le sud-ouest, dans les départements méditerranéens, dans les départements sud-alpins, un nombre important de manifestations de sympathie à la commune, souvent en milieu rural. Tel village va hisser le drapeau rouge, tel autre va proclamer son soutien à Paris. Pourtant, ces départements ne se sont pas soulevés comme ils l'avaient fait en résistance au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Voilà. Alors, Paris serait un lieu d'expérimentation politique qui permettrait la mise en place d'une république vraie, d'une république démocratique et sociale. Mais d'autres villes, comme Paris, se proposent d'être ce laboratoire. Narbonne proclame la commune insurrectionnelle, la commune révolutionnaire, et dit tout de suite qu'elle la proclame en union avec celle de Paris. Le projet communaliste est porteur, finalement, d'une organisation politique nouvelle, fédéraliste, qui serait celle d'un gouvernement des villes, d'une république des villes, les villes étant vues comme le moteur du changement politique. Et à Narbonne, un peu avant le 18 mars, le 12 mars, dans une réunion publique, Dijon dit à ses auditeurs « Répandez-vous dans les campagnes. Allez dire aux paysans que leurs intérêts sont les mêmes que les vôtres. Dites-leur que la révolution, c'est la paix par l'abolition des armées permanentes. C'est la suppression des impôts pour le petit propriétaire et pour le journalier qui n'a que ses bras. » Pourtant, évidemment, les choses ne vont pas se dérouler de cette façon-là. C'est-à-dire que les communes de province échouant rapidement, la province va finalement prendre le parti de la conciliation entre Paris et Versailles. La sympathie envers le mouvement communaliste parisien est importante, surtout dans les provinces méridionales. Mais on a un pas que beaucoup ont hésité à franchir entre avoir une sympathie pour le mouvement communaliste parisien et s'opposer au gouvernement, lequel tenait l'armée. Donc il y a un pas révolutionnaire que la plupart n'étaient tout simplement pas disposés à franchir. Le 14 avril 1871, le gouvernement d'Adolphe Thiers va restreindre considérablement le champ des franchises municipales en faisant voter une loi qui interdit aux villes de plus de 20 000 habitants d'élire leur maire. Et cette loi va dissoudre les conseils municipaux en place. À partir de là, Paris se trouve seul face à l'armée de Versailles. Les républicains des grandes villes vont tenter des démarches de conciliation qui échoueront face à la volonté de Thiers de tout mettre en œuvre pour éradiquer la révolution à travers le peuple parisien, politique, on le sait, qui aboutira au massacre de masse de la Semaine sanglante, mise en œuvre en plus par des officiers monarchistes. Alors, les communes de province ont échoué, elles ont été de courte durée. Le mouvement communaliste ne l'a pas emporté, alors on l'a vu à Lyon, à Marseille, en raison de l'usure des équipes révolutionnaires, en raison des divisions aussi entre les factions républicaines à l'automne 70. Les révolutionnaires, comme Dijon à Narbonne, vont se trouver minoritaires.
Peut-être sur le cas de Marseille, on peut détailler un petit peu plus.
Oui. Marseille proclame la République le 4 septembre, mais un petit peu avant Paris. La préfecture est envahie par la garde nationale qui allait prendre le contrôle de la ville. Et le 7 septembre, Léon Gambetta nomme Alphonse Esquiros administrateur supérieur des Bouches-du-Rhône. Ce dernier va mettre en place un programme jugé révolutionnaire. Il réduit la journée de travail des mineurs à 8 heures. Il épure là l'administration, l'armée, la magistrature. Toutes choses qui n'ont pas toujours été faites par les nouveaux préfets nommés par Gambetta, puisque assez souvent, finalement, notamment dans l'Aude, il y a eu pas mal de polémiques, puisque le préfet mis en place par Gambetta a été largement accusé de réintégrer l'administration d'Empire. C'est le 9 septembre, donc 2 jours après cette nomination d'Esquiros, est décidée la création d'une sorte de gouvernement du Midi, dans un premier temps, qui ferait lever l'impôt en masse sur les riches pour armer les soldats. Donc, la Ligue du Midi est constituée le 18 septembre 70. Elle regroupe 13 départements. Et c'est Esquiros qui n'hésite pas à assurer la présidence de cette organisation. Et puis il y a une armée mise en place par cette Ligue du Midi qui est commandée par le général Cluseret. Le gouvernement central désapprouve rapidement ce programme d'inspiration plutôt socialiste. Esquiros et Crémieux n'hésitent pas à déclarer « Si nous restons seuls, nous ferons appel à la Révolution ». Évidemment, ça va poser quelques problèmes à Esquiros qui va être remplacé par un ancien proscrit de 1851, donc a priori aussi un républicain sans faille, qui est Adolphe Ginte. C'est le 1er novembre, à l'initiative de cette Ligue du Midi, qu'une commune révolutionnaire est installée à la place du conseil municipal. On y trouve des membres de l'International, des républicains radicaux et des socialistes. Donc on n'a pas cette cassure, hein, comme dans le mouvement lyonnais. La commune ne dure que 3 jours. Et c'est l'occasion de l'effondrement de cette Ligue du Midi, puisque la participation de la Ligue du Midi à cette insurrection communaliste la délégitime, elle va s'effondrer d'elle-même. Il reste à Marseille qu'on a une situation insurrectionnelle à partir de là qui couve. Lors des législatives de février, les Républicains l'emportent à Marseille. Hein, et au mois de mars 1871, on a une série de tensions sociales à Marseille qui vont se traduire notamment par des grèves. La commune, finalement, à Marseille, intervient le 23 mars au matin. Bon, alors, c'est la foule qui envahit la préfecture, hein, tout simplement, alors que celle de Paris n'était pas proclamée officiellement. Hein. On a une commune qui comprend 12 membres, mais qui est rapidement en butte à l'armée. Le général Espivan de la ville Boisnée, qui est réfugié à Aubagne avec ses régiments, qui va chercher à chasser les factieux en armes, comme il dit, et qui va le faire. Bon, il mettra un certain temps, hein, puisque nos Marseillais vont pouvoir s'organiser autour de Gaston Crémieux, hein, qui va être l'homme majeur de cette commune de Marseille. On va, à partir du 4 avril, avoir une répression très très forte. L'armée, soutenue par 3 navires de guerre, est aux portes de Marseille et va donc écraser la commune.
Quand on dit soutenu par ces navires de guerre, on parle de bombardement concrètement.
Je sais qu'ils avaient mis en place tout un dispositif militaire tout autour de Marseille qui a permis de rentrer dans la ville, tout simplement.
Ensuite, je pense que tout de même, Espivan fait bombarder la préfecture. Ça, j'en suis certain.
Oui, oui, oui. Voilà.
Comme je vais fixant le sable, heurtant chacun, mâchant des mots. De ce hameau, je suis la fable, je suis moqué par les marmots. Comme sur mon crâne indocile, la douche est d'un fréquent emploi. On me prend pour un imbécile. Quel est le fou? Le monde ou moi, on croit mon esprit dans la lune, quand je soutiens qu'en vérité, la planète, mère commune, est grosse d'une humanité, que l'embryon précède l'être, qu'on prend l'accident pour la loi. Et que l'homme est encore un être. Quel est le fou, le monde ou moi? Je sais qu'on me trouve en démence, quand éclairé par nos instincts, je décris la spirale immense où graviteront nos destins. Et quand mon esprit prophétise et va la bride sur le coup, on dit laissez passer la crise. Le monde ou moi, quel est le fou? Mon extravagance les blesse, même lorsque parlant plus bas, je plains l'ignorance qui laisse bras sans terre et terre sans bras. Mon souffle n'agite pas l'onde, on me répond chacun pour soi, puis après nous la fin du monde. Quel est le fou, le monde ou moi? Mais j'affirme et leur raison nie. Suis-je fou? Non, leur raison ment. Au nouveau monde, à l'harmonie, je crois qu'au mot nord croient les mens. Comme lui rien ne m'en détourne, abyssêtre sous un verrou, je dirai encore elle tourne. Le monde ou moi, quel est le fou.
Donc on a parlé un petit peu du mouvement communaliste et des tentatives d'établissement de communes en province. On a parlé du cas de Marseille, on a parlé du cas de Lyon, on a parlé d'autres villes aussi comme Toulouse, Limoges ou Narbonne. Et justement, on va essayer de revenir un peu plus en détail sur le cas de Narbonne.
Oui, donc Narbonne, en 1871, compte seulement 17 000 habitants. L'objectif des révolutionnaires narbonnais, c'était de soulever tout le Midi et de créer un mouvement révolutionnaire armé qui rejoindrait Paris pour faire triompher le mouvement communaliste contre Versailles. Alors, Narbonne est assez clairement, avant la Commune, une ville républicaine. La guerre franco-prussienne se poursuit, la gauche républicaine audoise et narbonnaise va se radicaliser. On a de plus en plus une défiance montante vis-à-vis du gouvernement de Gambetta. À Narbonne, deux clubs structurent la vie politique. On a d'un côté le club de l'Union, qui rassemble les conservateurs, et de l'autre côté, le club Lamourguet, qui rassemble les républicains. Ça se passe dans une ancienne église, qui est l'église Lamourguet, qui est désaffectée. Et au sein du club Lamourguet, deux tendances vont se faire face assez clairement, un petit peu comme dans le reste du département de l'Aude. On va avoir d'un côté les modérés et de l'autre côté les intransigeants. En janvier 71, on assiste à une rupture, puisque les modérés sont mis en minorité et le club change de nom. De club Lamourguet, il devient club de la Révolution. Rien que ça. Un jardinier conseiller municipal, Baptiste Limousy, est alors élu président du club. Et il déclare « Pour arriver à la République, il faut passer par la Révolution ». Ceci le 22 janvier 1871. C'est au club de la Révolution qu'Émile Dijon, qui était donc journaliste au journal de la Fraternité, est invité le 12 mars devant une salle comble, et là, il lance un appel aux armes pour la défense de la République. Il demande aux militants d'arborer le drapeau rouge. On est le 12 mars. Alors évidemment, à Narbonne comme ailleurs, on suit les événements nationaux. Les conservateurs triomphent dans l'Aude en remportant les 6 sièges en jeu. Pourtant, la ville de Narbonne a voté républicain. Et pour les républicains intransigeants, au vu de cette assemblée monarchiste, on n'est plus en République. La nouvelle de l'insurrection parisienne le 18 mars va donner aux Narbonnais une raison de poursuivre leur objectif qui était de mener localement une insurrection. Et dès le 20 mars, le club de la Révolution tente d'engager la ville dans le mouvement. Et le club rédige une adresse qui se termine par ces termes. Les sous-signés déclarent ne plus reconnaître le gouvernement de Versailles et viennent demander aux conseillers municipaux de Narbonne d'avoir à se prononcer et informer leurs concitoyens s'ils sont prêts à obéir au gouvernement de Paris ou à celui de Versailles. Alors c'est étonnant parce qu'on est le 20 mars et que pendant ce temps, on sait bien qu'à Paris, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'on est dans une situation insurrectionnelle. Effectivement, Thiers s'est replié sur Versailles et les troupes ont évacué Paris. Mais on est dans une période où à Paris, on a un flou, on a tentative de conciliation, etc. Et à Narbonne, on a une radicalité très très nette. Le club demande ce qui lui avait toujours été refusé, c'est-à-dire l'armement immédiat de la garde nationale de Narbonne. Pour donner une idée de l'importance de ce club, on trouve le chiffre de 2000 personnes assistant aux réunions. Bon, si on le réduit à 1500, ça fait quand même le dixième de la population, puisqu'on avait 17 000 habitants. Donc on a une pression démocratique de ce club qui est très très importante sur le conseil municipal. Et le 24 mars, le commandant de la garde nationale est finalement autorisé à distribuer quelques fusils à ses hommes. Une certaine quantité, dis donc. Mais rapidement, le bruit court que des armes sortent de l'hôtel de ville. Et ce qui devait se passer arriva, c'est-à-dire que le club, devant le refus du conseil municipal, n'attendait qu'une occasion pour passer à l'insurrection. La distribution dégénère, toute la garde nationale se présente, ainsi que d'autres citoyens, et 500 fusils étant sortis de l'hôtel de ville, le peuple se retrouve en armes sur la place de l'hôtel de ville. Et là, il scande la commune, la commune. L'hôtel de ville est envahi. C'est Émile Dijon, donc le journaliste dont on a parlé, qui n'était pas originaire de Narbonne, mais qui avait une certaine ampleur politique. Il avait participé à l'expérience dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est l'expérience de la Ligue du Sud-Ouest, parce qu'il y a eu la Ligue du Midi, mais il y a aussi eu sur Toulouse et les environs la Ligue du Sud-Ouest, donc une expérience à peu près comparable. Il était aussi allé à Lyon, il avait des réseaux. C'était quelqu'un qui était un ancien proscrit, dont le père était également un ancien proscrit. Donc c'est quelqu'un qui avait des réseaux politiques et une envergure politique que n'avaient pas localement les membres du club. Donc ils étaient allés chercher Émile Digeon pour avoir une figure localement reconnue du républicanisme. Évidemment, Émile Digeon avait su se poser en recours et avait su faire part de sa disponibilité. Donc c'est Émile Digeon qui monte au balcon de l'Hôtel de Ville et qui proclame, ce que j'ai lu tout à l'heure, la constitution de la commune centrale de l'arrondissement de Narbonne avec union à celle de Paris. Il en sera le chef provisoire. L'insurrection armée est faite. L'Hôtel de Ville est pris sans résistance, finalement. Mais à Narbonne se trouvait une caserne qui renfermait 1500 soldats du 52e de ligne. 1500 soldats, là encore, rapportés à la population, c'est énorme. La question, c'est qu'allait faire cette garnison. Et le 25 mars, donc le lendemain, une partie de la réponse va être donnée, puisque le lieutenant-colonel de la caserne va envoyer des soldats pour s'emparer de l'Hôtel de Ville. Et là, les soldats passent au peuple. Bon, la foule les entoure. Contrairement à ce qu'espérait, évidemment, le commandant, le lieutenant-colonel Villard, on n'a pas une intervention armée qui va réduire l'insurrection, mais au contraire, des soldats qui passent au peuple. Bon, ils sont entourés par le peuple, par les femmes notamment. Bon, je passe sur les détails. Durant toute la journée, c'est la centaine de soldats. Il avait envoyé simplement une centaine de soldats pour bon, voilà, il avait laissé les autres à la caserne. C'était bon, une tentative. La centaine de soldats qu'il avait envoyés, non seulement est passée au peuple, mais va enrôler d'autres soldats. C'est-à-dire que les soldats vont faire des allers-retours en direction de la caserne pour convaincre leurs camarades de passer également au peuple. Et donc, en soirée, on se retrouve avec 250 soldats communards à Narbonne. Dès lors, le commandant va barricader ses hommes par crainte de la contagion révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on va se trouver dans une situation ahurissante où une partie de la garnison est passée au peuple et l'autre partie est maintenue par le commandant, enfermée dans sa caserne. C'est confirmé le lendemain, puisque Émile Digeon fait une démonstration de force. Il fait une sortie de l'Hôtel de Ville et il se promène dans la ville. Il va s'emparer de la sous-préfecture, il va s'emparer de la gare, il va s'emparer du télégraphe, et qui est à la gare, en fait, parce qu'il était très attentif à la question des communications. Et ce faisant, il passe devant la caserne sans être inquiété. Et plus qu'en danger, cette garnison devient l'espoir constant de nouveaux renforts pour les communards, ce qui est assez paradoxal. Assez clairement, les communards sont maîtres de la ville. Pour vaincre l'insurrection, le gouvernement de Versailles va rassembler une véritable petite armée. Le général qui commandait les troupes, le général Zenz, va faire afficher le 31 mars dans Narbonne un placard menaçant les Narbonnais de bombardement. Il avait installé des batteries d'artillerie et il menaçait de bombarder l'Hôtel de Ville avec des obus. Ce qui a fait fortement monter la pression, parce que l'Hôtel de Ville de Narbonne est un bâtiment médiéval ancien et était encore, et sont encore d'ailleurs aujourd'hui, accolés des maisons à cet ensemble architectural. Et donc les occupants des maisons viennent voir Émile Digeon assez affolé en lui disant « Bon, il faut peut-être faire quelque chose, il faut absolument vous rendre, on veut pas voir nos maisons détruites, on veut pas mourir, etc. » Donc la tension monte. Vers 3 heures du matin, le 31 mars, on a eu des échauffourées entre troupes de répression et communards. Les communards avaient mis en place des barricades tout autour de l'Hôtel de Ville. Et les insurgés voulaient fraterniser avec des troupes qui étaient des tirailleurs algériens, qui n'étaient pas là pour cela, bien évidemment, qui venaient de Perpignan. Et ces tirailleurs algériens ont tiré. On a relevé 2 morts. Les civils et les femmes vont participer à la défense. J'ai parlé des barricades tout à l'heure. Ce sont notamment les femmes qui vont prendre l'initiative de créer ces barricades. Mais finalement, le massacre va être évité par l'habileté politique, on va dire, du procureur de la République d'alors, qui commandait les troupes de répression. Ce qui frappe finalement avec la véritable petite armée réunie par le gouvernement de Versailles, C'est le déséquilibre des forces en présence. À partir du moment où on a 1000 soldats professionnels d'un côté, et de l'autre côté, on a 300 soldats et 300 gardes nationaux armés, même s'ils sont dans l'hôtel de ville, ils n'ont pas... Enfin, alors, ils avaient fait un canon plus ou moins fabriqué par eux-mêmes, bon, mais ils n'étaient pas prêts, on va dire, à se défendre face à une armée. Ce qu'ils espéraient, eux, c'est que Toulouse, Perpignan, Montpellier... Enfin, Montpellier, c'était difficile parce qu'a priori, c'était une ville conservatrice, mais que Toulouse, Carcassonne, on va dire, Perpignan, Sète, Béziers, les villes des environs proclament la commune. Il y a eu des délégués qui avaient été reçus à Narbonne pour que la commune puisse être proclamée, mais ces villes n'ont pas suivi.